À lundi 21 septembre, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue aux amateurs de sport. On sera ensemble jusqu'à 21h, encore de l'action sur la scène sportive professionnelle ce soir. Il y en a eu beaucoup en fin de semaine. En fait, on a, je dirais pas qu'on a tout cuit dans le bec, mais on a tout ça présenté en même temps. Hein. Ça converge avec la finale de la Coupe Stanley qui s'est amorcée en fin de semaine. On en parle dans quelques instants avec Danny Dubé. La première victoire qui est allée du côté des Stars de Dallas. Cependant, quand les joueurs de John Cooper perdent un match, habituellement, ils en gagnent plusieurs par la suite. Est-ce que c'est comme ça que ça va se dessiner pour le Lightning contre les Stars? On en parle tout à l'heure. On est au lendemain de la victoire de Bryson DeChambeau au US Open. Et c'est pas juste la victoire d'un golfeur, c'est la victoire vraiment d'une méthode, d'une approche qui est complètement différente. On peut même se demander comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne, puis il y en a peut-être, Dave Lévesque nous le dira tout à l'heure, qui ont essayé d'autres approches, comme lui le fait avec la longueur de ses bâtons, et un paquet de trucs, lui qui dit s'inspirer de la science et encore davantage, qui met sur la distance, qui a pris 30-35 livres au cours des derniers mois pendant la pandémie pour être encore plus fort, frapper la balle plus loin, un pari de distance, sans oublier la précision, parce qu'il est impeccable sur les verres avec ses courroulés. Donc, Dave va nous parler de tout ça tout à l'heure. Le Tour de France, sans aucun doute l'un des plus grands événements sportifs sur la planète. Hugo Hull a participé à son deuxième Tour de France, en est ravi, a vraiment bien performé, un top 10. On s'entretient avec lui tout à l'heure, aux environs de 7h-10, un extrait de l'entrevue qu'on va vous proposer et diffuser de façon intégrale un peu plus tard à l'émission. Martin McGuire va venir nous rapporter les propos de John Cooper, notamment de Cédric Paquette, qui aimerait bien ça, lui, amener la Coupe Stanley en Gaspésie. Nous allons recevoir Bruno Eppel pour parler de la NFL. Il y a eu des matchs, waouh, quelle fin de match au pluriel hier, c'était pas mal divertissant. Et on va revenir sur la défaite, déception d'un autre carton rouge pour l'Impact de Montréal. C'est difficile de se défendre avec un joueur en moins. Jérémy Filosa sera avec nous ce soir, mais dans un premier temps, nous saluons M. Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut Mario.
Alors les Stars contre le Lightning, est-ce que les Stars ont gagné le match qu'ils devaient gagner ou au contraire, tu penses que c'est si on prend note de la façon dont ils l'ont fait, même s'ils ont subi pas mal en troisième période, le Lightning pourrait avoir un client pas mal plus sérieux qu'on pouvait l'estimer au départ?
Ben écoute, je m'attendais pas à avoir une série facile, honnêtement. Je trouve que le Dallas, c'est l'équipe Cendrillon, là. C'est une équipe surprise avec un gardien de but de réserve qui fait un travail remarquable. Dubin, là, c'est quand même pas une puissance en Ligue nationale. Là, il est sur une séquence extraordinaire. J'imagine que les entraîneurs du Lightning, entre eux, se disent à un moment donné, le ballon va dégonfler. Ça doit être l'idée qu'on a derrière. Mais faut faire attention parce que lorsqu'un athlète est sur une bonne séquence puis que la confiance s'installe, il n'y a plus rien d'impossible.
Il devient meilleur qu'il ne l'est normalement. Est-ce que tu crois ça comme un golfeur qui est dans sa zone? Tu penses qu'à un moment donné, tu sais, il va, donc son pourcentage de courroulés réussis à telle distance, il va être un peu plus supérieur. Un gars qui tire du flanc droit, son pourcentage. Tu sais, il y a des années, tu regardes les stats d'un gars, il marque à 8% de ses lancers. Une autre année, il marque à 14%. Je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, là.
Ben, c'est la magie de la confiance. C'est au moment où tu arrêtes de trop y penser, puis tu le fais. Puis quand tu le fais, tu te vois en train de le faire. Puis ton dernier souvenir, c'est de l'avoir réussi. Fait que tu le refais encore, puis tu le refais encore. Tu sais, à un moment donné, tout ça, ça compte. Et aussi, c'est contagieux. C'est que ça amène d'autres choses aussi dans ton entourage. Il n'y a pas juste toi qui as confiance. Tu te donnes confiance. Tu diffuses cette confiance-là à tes coéquipiers. Puis, écoute, il n'y a pas vraiment de hasard là-dedans, mais en même temps, c'est une situation qui peut basculer très rapidement parce que un jour ou l'autre, cette confiance-là, elle peut changer de camp. Et moi, je pense que ça, c'est toujours possible parce que la série est très, très jeune. Je regardais, j'allais fouiller dans les statistiques et je me rendais compte que, bon, les deux équipes, c'est pas mal des chiffres qui se ressemblent. Il y a une place où les deux équipes se ressemblent pas du tout. Et écoute bien ça, Mario. Les deux équipes, depuis le début des séries, lorsqu'ils marquent le premier but, c'est des fiches assez identiques. 8-2, 8 victoires, 2 défaites pour Dallas, 9 victoires, 1 défaite pour le Lightning. Lorsqu'ils ont l'avance après la première période, c'est 5 victoires, 1 défaite pour Dallas, et c'est 7 victoires, donc ils ont une fiche parfaite, le Lightning de Tampa Bay, lorsqu'ils mènent après une période. Et écoute bien ça, lorsqu'ils perdent après une période, ils n'en ont pas gagné une. Ils sont 0-4.
C'est étonnant, ça.
0-4.
Et y a-t-il une explication pour l'impuissance de leur jeu de puissance?
Eh bien, écoute, j'ai beaucoup de difficultés à te donner une raison en particulier. Je pense que c'est aussi l'absence de Stamkos qui leur cause certains problèmes. On est obligé de changer les patrons de jeu, d'amener différentes facettes, ce qui fait que tu crées de nouvelles options avec des nouveaux joueurs quand ton joueur clé n'est pas là. C'est quand même une différence de 8 buts là, entre les deux équipes en avantage numérique. Et ça, c'est pas rien. Parce que le Lightning, Mario, là, à 5 contre 5, ils sont, je vais pas dire impeccables parce qu'ils ont perdu le premier match, là, mais ils sont vraiment très bons. Et ils sont plus 16, tandis qu'on est au coude à coude pour les Stars de Dallas. Donc, ils ont donné 42 buts, ils en ont marqué 42. Donc, eux, là, c'est pas vraiment, en tout cas, depuis le début des séries, ça reste un portrait général. C'est pas là où la différence se fait. Ils jouent bien à 5-5, mais c'est vraiment une équipe qui est inspirée, qui est teintée d'opportunisme dans son jeu. Ça semble être ça qui fait une différence jusqu'à maintenant. Mais moi, je te propose quelque chose, OK?
Oui, ça
je regarde bien. Je regarde le Lightning de Tampa Bay, puis j'essaie de me dire, maintenant, je me place dans les souliers de John Cooper. Puis là, je regarde cette équipe-là, puis je me dis... Oui, c'est vrai que depuis le début des séries, on a joué à 7 défenseurs et ça nous a porté fruit. Ça a payé, comme dirait l'autre. Mm-hmm. Mais là, je regarde ces attaquants. Il y en a plusieurs qui sont amochés. Je trouve que Kucherov n'a pas eu très, très bon premier match. Braden Point, on le sait, il ne jouait pas à 100%. Pourquoi pas revenir à une formule de 6 défenseurs pour avoir un quatrième trio, tout au moins un petit peu plus d'énergie et de vitesse pour mettre la pression sur les défenseurs des Stars puis être plus présent devant le filet. Tu sais, je trouve que la formule à 7 défenseurs, c'est bien quand tu as un défenseur capable de jouer en avant puis de vraiment remplir un rôle d'attaquant. Mais là, c'est pas vraiment ça qu'on voit là, du côté du Lightning.
Ça a failli leur jouer des tours contre les Islanders de New York par rapport aux unités spéciales. Maintenant, pour l'utilisation d'un 12e attaquant, quels sont les noms dans l'équation, Danny, selon que tu gardes cette défenseur ou qu'à la place, tu choisisses d'intégrer un 12e attaquant? Au-delà du nom, qu'est-ce qui peut t'amener? Je veux dire, si on n'a pas confiance en un gars, tu sais que les coachs, à un moment donné, quand ils collent à des joueurs là, puis qu'à une formule, ils sont prêts à vivre avec les irritants qui vont venir avec. Je sais pas si ça dérange tant que ça, Cooper, de pas avoir un quatrième trio, s'il n'y a pas confiance au 12e joueur. C'est peut-être ça.
Non, c'est clair que c'est un élément que tu dois considérer dans ta réflexion. J'aimerais avoir assez de bagages au niveau de tous les joueurs qui sont disponibles, qui sont avec eux dans la bulle pour te donner une réponse précise. Mais écoute, moi, j'irais vers un gars qui amène de l'énergie et qui peut mettre de la pression sur la défensive adverse parce que, si je regarde, là, écoute, Cédric Paquette, là, il ne ménage pas. Là. Il est rendu à 92 mises en échec depuis le début des séries. Là. Il se donne. Là. Mais ça en prendrait un autre qui fait un peu ce genre de travail-là, puis qui est capable d'amener la rondelle en territoire adverse, puis qui est vraiment dans le visage des défenseurs, là, si tu me prêtes l'expression consacrée, qui vient un peu mettre un peu de sable dans l'engrenage de la défensive des Stars. Et on le sait, là, la défensive des Stars, c'est pas une défensive qui est très engagée physiquement. Là. Iskanen, c'est pas... Klingberg, c'est pas... Tu sais, je me cherche un... Alors, oui, Oleksiak, ça va, il est gros, il est plus engagé physiquement, mais à part ça, tu peux pas dire que c'est une défensive qui est très
physique. Il est temps que je sorte de... OK. Au niveau physique, tu veux dire, il n'y a pas de redresseur de tort. J'allais dire, il n'y a pas de Bobby Orr, mais là, c'est pas le bon nom ce soir dans notre conversation. Il n'y a pas de général. Quoique, mais ils ont tous... encore là, si tu regardes la défensive, c'est vrai que Pietrangelo, dans les Blues, avec les Blues de Saint-Louis l'an passé, qui a gagné la Coupe cette année, tu sais, il y a des gars talentueux là-dedans, mais tu n'as pas de canon, de corps arrière. Oui, t'as une coupe de corps arrière, mais il n'y a pas de super vedette à la ligne bleue. Puis tu regardes l'équipe des Stars de Dallas en contrepartie, c'est pas une équipe qui compte tant que ça sur des super vedettes. Tyler Seguin est peut-être un gars qui a le profil de, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est établi dans la ligue comme super vedette? C'est un deuxième choix au total en 2010. Il n'y a pas de temps de... Tu sais, Radulov est une grosse acquisition sur le marché des joueurs autonomes. D'ailleurs, j'ai décortiqué un petit peu l'alignement de Dallas parce qu'on peut se demander, ils n'ont pas fait mieux que le Canadien en termes de performance en série des 11 dernières années, Danny, hein?
Non.
Je décortiquais ça bien vite, là, pas que ça nous amène à ben des... Mais ils ont raté les séries 8 fois lors des 11 dernières années. Le CH a raté les séries 4 fois lors des 11 dernières années. Mmh. Dallas a gagné 2 rondes de séries en 11 ans. Le CH a gagné 5 rondes en ces périodes. J'exclus l'année en cours, là. Évidemment, là, Dallas est parti pour la gloire. Ils ont 8 joueurs autonomes. Est-ce qu'il y a des acquisitions qui font la différence là-dedans? Radulov, Pavelski, Perry, Blake Como, Sequeira, Khudobin, Kiviranta et Hanley. Je pense que oui, hein, Danny? L'acquisition des joueurs autonomes, c'est un élément.
Le marché américain, Mario, est avantagé sur le marché canadien. Là. Tu peux pas...
Mais il n'y a pas de superstar là-dedans. Est-ce que tu penses que tous les clubs s'arrachaient Pavelski à 35 ans et Corey Perry?
Non, ça veut dire qu'il
y a de la lucidité aussi peut-être dans le type d'embauche qu'on a fait, je ne sais pas. Radulov, il y avait sans doute une certaine demande, mais encore là, tu penses-tu qu'à part Montréal, il y avait-tu bien d'autres clubs impliqués là-dedans? Ils ont mis un peu plus d'argent compte tenu de la fiscalité américaine, ou c'était aux Canadiens d'en mettre un petit peu plus pour, atténuer le fait qu'on y en aurait pris un petit peu plus dans les poches ici.
Les Canadiens, il fallait qu'ils acceptent de donner un mauvais contrat pour garder Radulov, là. Ça, on le sait, on a parlé en long et en large de tout ça, mais il reste.
Je veux pas partir là-dessus, mais la notion unanime de mauvais contrat, pour moi, c'est pas clair, là. Je veux dire, tu sais, quand t'es rendu en finale avec un de tes mauvais contrats puis que le gars, il joue, je veux dire.
Un mauvais contrat, ça veut dire que tu sais que sur la longueur du contrat, à un moment donné, ça va devenir lourd. Ça va devenir.
Possible.
Et ça crée une surenchère.
Plus lourd que Osner, tu sais.
Non, mais parce que Osner, tu peux pas t'en servir après comme pas t'en servir comme barème.
Mais
les
autres
peuvent pas s'en servir comme point de négociation, c'est ça mon élément là.
Ouais. Si tu gagnes la coupe avec le gars là, on s'en foutu.
Ben oui, je comprends donc.
Tu sais, à un moment donné, le but c'est de gagner. Tu sais, s'il faut que tu tiens ton contrat sur une année de plus, go.
Ouais.
Il finira à Laval s'il faut. Non, mais à un moment donné, il règle ça en temps et lieu.
Ben moi, j'aime mieux choisir un problème que je connais là. Aussi, là.
Aussi.
Dans le sens que c'est tout ça, là.
Mais c'était pas de relancer le débat sur Radulov. T'sais, c'est fait. C'était juste sur la notion qu'il semble y avoir, quand tu le dis, c'était comme un mauvais contrat, comme si on pouvait pas en débattre. Puis on sait pas comment il va jouer dans les prochaines années non plus, là.
Non. Mais moi, c'est clair que moi, Radulov, je
trouve que c'était un mauvais contrat.
Je trouve que c'était un contrat qui était chèrement payé, puis moi, j'aurais donné cet argent-là, puis je t'ai expliqué pourquoi.
Oui,
c'est vrai. C'était le haut de la vague, c'était l'arrivée. Il y avait un momentum, il y avait lui, c'était l'après Piqué-Souban, la transaction. Puis là, écoute, lui, avec l'arrivée de Weber, tout ça, il y avait quelque chose qui se passait avec l'équipe. Mais là, c'est sûr que depuis qu'il est parti, on a tourné pas mal en rond.
C'est plus le même club. Ben oui, c'est ça.
Donc, il est obligé de le considérer comme étant en disant, ben oui, c'était un contrat qui coûtait très cher, que certains dans le milieu appellent affectueusement des mauvais contrats. Mm-hmm. Mais tout ça pour revenir à notre affaire, je voulais juste compléter parce que je voulais pas perdre mon fil conducteur. Non, mais non, c'était très intéressant.
Mon côté TDA.
Non, on est tous les deux pareils. c'est parce que je trouve que, mettons, Iskanen, je trouve que Klingberg, c'est des générateurs d'offensives, c'est des gars qui ont marqué des buts quand même de façon importante depuis le début des séries. Puis c'est des joueurs qu'on n'a pas, tu sais. Je pense que le Lightning a avantage à les malmener un peu plus, à rendre leur vie plus difficile, à les placer dans les situations où on les presse. Puis Oleksiak, tu y feras pas peur, mais tu peux le placer dans une situation où tu sollicites son agilité. C'est un gros joueur, il est pas agile.
Un défenseur régulier dans la Ligue nationale.
Je sais, puis il est rendu à 5 buts. Il faut absolument, si tu vois que les défenseurs contribuent de cette façon-là, écoute, c'est une 15... En tout cas, il y a beaucoup de buts, là. J'ai pas fait les décomptes, mais mettons une quinzaine de buts, là. Ben, c'est énorme, là. Ces buts-là.
Tu veux savoir les buts qui viennent de la pointe? Je vais te dire ça bien vite. Lindell en a un, dans les autres défenseurs.
Cinq pour Iskanen.
Cinq, ça fait 6.
Trois, et puis Oleksiak en a 5 aussi, là. T'es 13, 14, donc autour de 15 buts, là. Sur les buts qu'on a.
Un.
De l'autre soir.
C'est ça. OK.
Fait que, écoute, c'est quand même pas rien, là. Donc, tu dis, si la force de frappe vient de là, ben, tu réduis la force de frappe en essayant de les ralentir, en accordant une attention plus particulière à ces gars-là. Donc, ça te prend des joueurs qui sont capables d'aller mettre la rondelle derrière eux, les forcer à rester dans leur zone. Je sais que c'est des clichés, là, mais pour les gens qui nous écoutent, lorsque tu es en train de défendre puis courir après la rondelle dans ta zone, pendant ce temps-là, t'es pas dangereux de compter. Là, ça se passe non. À l'autre but si tu veux compter. À l'autre bout si tu veux compter. Et de surcroît, moi je pense que Dobin, c'est pas un gros gardien physiquement. Là. Faut que tu y compliques la vie, là. Va-t'en dans son entourage, force les défenseurs à venir s'occuper de toi. C'est un élément que je trouve qui appartient seulement à certains joueurs du Lightning. Il faudrait que ça appartienne à tout le monde. Et moi, je pense que ça leur prend 4 trios pour avoir un maximum d'énergie.
Le succès de Dobin, là, je te dis que ça défie pas mal les tendances parce que c'est un gars en bas de 6 pieds. Il est juste à 5 et 11. Tu sais que des gardiens en bas de 6 pieds, il y en a encore quelques-uns, là. Mais, ne sont pas légion. Puis la stratégie des 4 trios, ben, c'est ça, c'est une question d'épuiser l'adversaire. S'il fallait que le Lightning se retrouve à tirer de l'arrière 0-2 dans cette série-là, ton idée de ramener un 12e attaquant versus un 7e défenseur, je pense qu'on va y repenser à deux fois si on le fait pas ce soir.
Ben, les équipes qui mènent 2-0 en finale de la Coupe Stanley, là, c'est comme 90% du temps, ils gagnent, là. Fait que ce serait une bonne idée de le faire à soir.
Ben, regarde, c'est... non, mais t'as raison. Fait que non, tu veux pas tirer de l'arrière 0-2.
Ben non. Hey,
dans la NFL, là, on a un calendrier de 16 matchs, puis les équipes, les statistiques, je pense, c'est 12% de participation en série quand t'es 0-2, là. C'est un calendrier régulier. Fait que une série 4-7, jamais je croirais que 0-2, tu veux pas vivre ça, là, hein?
Et puis en même temps, tu sais, les gens, il y en a qui, moi, je fais toujours rire, ils disent « Ah, les statistiques, là, c'est pas si important que ça, les statistiques, ça joue sur la glace, mais il y a quand même des tendances. » Puis toi, quand t'es entraîneur, les tendances, faut que t'es connaisses, parce que ça t'aide à prendre des décisions. Ça veut pas dire que parce que t'es en arrière de la statistique, donc t'es un peu à l'encontre de la statistique. Bon, pour prendre un exemple très concret, c'est pas parce que après une période, ce soir, si le Lightning est en arrière 1-0, ça veut pas dire qu'ils vont perdre le match, là. Ça veut pas dire qu'ils vont laisser aller le match ou qu'ils sont cuits. Mais ça les place dans une situation beaucoup plus difficile. Alors, c'est ce genre de situation-là que tu veux éviter. Et pour ça, je pense que ça change ton coaching. Donc, tu es plus agressif dans une première période. Quand je dis plus agressif, c'est que tu es plus intense. Tu cherches des combinaisons peut-être à les replacer différemment puis essayer d'obtenir le maximum de tes meilleurs joueurs. Et dans les circonstances, je pense que c'est... le cliché, il est pas, je pense qu'il est pas déplacé en disant, là, je dis pas que c'est un match juste en lendemain, mais s'il se place dans une situation 0-2, il va être dans le pétrin.
J'ai très, très hâte de voir ça. Une petite prédiction en nous quittant comme ça, Danny?
Ils vont rebondir. Moi, je pense qu'ils vont rebondir. Ben, j'aimerais ça qu'il y ait 4 trios, mais ça, je pense pas que
voir.
Ça va arriver.
S'il y en a 4, je vais te demander à qui t'avais parlé avant le match, Danny. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon match. Alors, Tampa Bay, ce soir, qui va tenter d'égaliser les chances dans la série. Dans quelques instants, un extrait de l'entrevue que j'ai réalisé avec Hugo Hull, qui revient du Tour de France, en fait, qui nous parle de sa participation au Tour de France. On va parler du US Open aussi à venir.